Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet.
Les vraies voix sur Sud Radio, c'est un peu, comment dire, l'arche de Noé, oui. On a notre poulette Laura Tenoudji qui est avec nous. Notre Pan, oui, notre Pan, il fait tellement bien la roue avec une grâce incroyable. Philippe Binger.
Pan.
Notre vieux dindon, Philippe David.
J'ai eu peur, j'ai cru que c'était pour moi.
Et notre biquette, Trina McDean. Qui remplace ce vieux bouc de Rossi qui sera de retour demain avec ses réseaux sociaux. Voilà, vous connaissez tout le monde. Et oui, une belle ménagerie qu'on a envie de choyer. Je dis ça parce que notre vraie voix du jour, Brigitte Gauthier, se bat pour le bien-être animal depuis très longtemps, cofondatrice de l'association L214 qui filme en cachette, vous le savez, les maltraitances faites aux animaux. Il y a aussi les cochons, absolument, qui sont maltraités dans les porcheries de Bretagne. On en voit parfois sur les films de L214, c'est absolument atroce. Et elle sera là pour ce livre, La face cachée de nos assiettes. C'est chez Robert Laffont avec nous vers, allez, 17h30 à peu près. Sinon, le programme est chargé, hein, les amis. Les prix de l'essence qui flambent à nouveau et c'est pas fini. Un cercle de réflexion proche du gouvernement affirme qu'il faut augmenter la taxe carbone à l'origine de la colère des gilets jaunes pour la redistribuer intégralement aux Français les plus en difficulté. Alors, bonne ou mauvaise idée, on vous attend pour en parler au 0826-300-300. L'autre débat des vraies voix aujourd'hui, Benalla. Benalla et plusieurs proches d'Emmanuel Macron renvoyés devant la justice à la demande du Sénat. Question. Le Sénat va-t-il trop loin? Est-ce son rôle de saisir le parquet? Est-il devenu un tribunal politique? Là aussi, bien évidemment, on vous attend. Mais tout de suite, c'est l'heure du traditionnel tour de table de l'actualité.
À quoi tu penses?
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Arrêtez de triquiter pour un oui pour un non.
Ce que tu dis n'a aucun sens.
Le tour de table
de l'actualité.
Allez, c'est parti, le tour de table de l'actualité avec notre petite poulette, Laura Tenoudji.
Oh,
tu fais bien la poule, Philippe.
Ouais. Ouais. Ah oui
ouais. On sent qu'il y a de l'entraînement. Hein. Il y a de l'entraînement.
Fais le coq,
ça.
Ah non, ça, j'y arrive pas.
T'arrives pas à faire le coq.
Non, mais toi, je le sens bien avec ta crête, ça irait.
Heureusement qu'on reçoit la cofondatrice de L214.
Allez, on vous écoute.
Il est question de nourriture, en plus, mais de pâtes cette fois-ci. C'est une très belle initiative que j'ai découverte. Très belle initiative, pardon, que j'ai découvert sur Internet. C'est un restaurant italien qui a remplacé toutes ses pailles en plastique par des pâtes. En fait, c'est comme des pâtes en forme de paille.
Ah bon, d'accord.
Bah, c'est pas bête. Donc, c'est assez intelligent.
Donc, ce sont des pailles en pâtes.
Bah oui, ce sont des pailles en pâtes.
Elles sont pas cuites, alors, elles sont dures.
Ah non, elles sont dures. Bah, sinon, ça devient tout de suite plus compliqué.
Voilà, c'est ça.
Mais c'est
alors,
génial.
Ça marche sauf pour le thé, évidemment, et pour les boissons chaudes.
Oui, oui, parce que quand ça tremble dans l'eau, ça se ramollit au bout d'un moment.
Mais ça met du temps à ramollir.
Ah oui.
Il faut 7-8 minutes pour tremper dans l'eau chaude pour que ça ramollisse.
Mais peut-être que si on a envie de prendre son temps pour boire.
Tant que c'est pas la poutre.
Ça commence, Philippe. Pour une fois que j'ai une information sérieuse.
C'est une très bonne idée.
C'est l'intello de la bande qui raconte des conneries.
En fait, ça lui manque quand on n'en parle pas.
De moins en moins compte tenu de la...
C'est pas à cause de nous. C'est pas à cause de nous.
Vous avez une sorte d'aura sulfureuse sur moi, mon cher Christophe.
C'est intéressant.
Vous voyez, je pensais que c'était moi, mais pas du tout.
Donc, des pailles en pâte. Et c'est où ça? Dans quel restaurant?
C'est en Italie.
Ah, c'est en Italie.
Oui, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'avec tous nos auditeurs qui ont des restaurants, ils peuvent importer.
Mais ils peuvent les vendre par Internet.
Non,
même.
Mais ce qui est vrai, en tout cas, c'est que ces fameuses pailles en plastique, on en retrouve partout. C'est dégueulasse.
Est-ce que je peux faire passer un message?
Ouais.
Arrêtez de mettre des pailles en plastique.
Ouais.
En plus, on ne s'en sert pas. Qui boit à la paille? Personne.
Si, il y a encore des gens qui boivent à la paille.
Les enfants, oui.
Les enfants, mais vous Christophe, vous buvez à la paille?
Bah, moi, non, mais je connais des adultes qui vont commander un coca au restaurant et qui vont demander une paille et boire le coca comme ça pendant
Moritos,
le repas.
Par exemple.
Ah, mais vous buvez beaucoup de Moritos?
Non, mais Philippe a raison. Un Morito, ça ne peut se boire qu'avec Philippe. Une paille.
Mais que des virgines.
Ah oui,
que des virgines, Morito.
Et le Diabolo Monde, par exemple.
Ah non, parce que c'est gazeux. Plus, beaucoup plus qu'un mojito.
C'est gazeux.
Et ça crée quoi chez vous alors?
Dans la paille, ça vous fait un appel de gaz et après.
Oui, on veut pas les détails. Non,
mais après, c'est pas bon pour l'œsophage.
Oui, d'accord, on saura tout.
Les reflux.
Voilà pour les reflux après.
Je pensais pas que ma nouvelle du jour allait susciter autant de réactions.
C'est le docteur Philippe David.
C'était vraiment une info qui était panouille.
Oui. Oh, très bon. Très bon, allez. On l'applaudit. Voilà, il est content comme ça, on en parle plus. Bon, alors mon petit dindon, il y a quoi dans l'actualité aujourd'hui ?
Alors, il y a des choses qu'on n'imaginerait jamais voir. Alors parfois, c'est sur Twitter, je pense à une citation d'Audiard, « Les cons, ça ose tout, c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît, et là, le prix Nobel pour la France est tout trouvé. » Hier, j'ai taillé Tariq Ramadan. Aujourd'hui, ça va être au tour de Civitas qui a balancé ceci.
Oh, c'est quoi ?
Ceci, c'est une affiche qui s'appelle « Force élection européenne mai 2019 ». Force 2019, interdiction de la franc-maçonnerie, votez force Civitas. Occulte. Alors, Forces occultes, c'est un film d'ultra-collaboration. Ils ont repris une affiche d'un film...
Ah, ils ont pris une affiche de la guerre
Une affiche d'un film qui avait été commandé par la Propaganda Abteilung Frankreich, c'est-à-dire c'était les mecs sous les ordres de Goebbels.
Vous êtes très bon en allemand
oui,
aussi.
Très bon. Alors Goebbels dirigeait la Propaganda Staffel, les échelons de propagande, et l'occupant en France avait la Propaganda Abteilung Frankreich, la section de propagande pour la France. Et donc Civitas a rien trouvé de mieux que de ressortir une affiche d'un film qui avait été fait par l'occupant de la France pour faire une affiche électorale. Alors, je tiens juste à dire deux choses, c'est que les deux réalisateurs et scénaristes de ce film, le réalisateur a été fusillé à la Libération, le scénariste a été condamné à mort, il a trouvé l'asile dans une grande démocratie qui était l'Espagne du général Franco, c'est pour ça qu'il n'a pas été passé par les armes, et ces deux réalisateurs...
Mais ça vous étonne que ça vienne de Civitas, cette reprise d'affiche
venant d'eux, ça ne m'étonne absolument pas, sachant qu'ils ont même recyclé...
D'ailleurs, faut rappeler ce qu'est Civitas.
Alors, Civitas, c'est un parti ultra catholique, d'ailleurs c'est pour une cité catholique, un parti qui se situe à l'extrême droite de l'extrême droite, ils ont même recyclé un mec du RN, je citerai pas son nom qui a été exclu, pour avoir été pris en photo le bras tendu devant un drapeau du Troisième Reich, vous voyez donc, là c'est vraiment en plus, alors les deux qui avaient fait ce film, j'allais dire cette horreur, ils avaient fait cette exposition quelques temps après, ça s'appelait Le Juif et la France, vous voyez un peu je me dis que finalement, élection européenne, Le Juif et la France, Civitas, ça va peut-être être leur prochain tweet.
Ouais. Eh bien, ça en dit long quand même sur l'état d'esprit qui règne un petit peu partout aujourd'hui
alors,
en Europe.
Ce qui est quand même d'extraordinaire, c'est que le patron de Civitas est belge. Et le patron de Civitas n'est même pas français, il est belge.
Ah, en plus.
Oui.
Il est flamand ?
Non, je pense qu'il est wallon. D'accord. Mais il est surtout con. Et ça, il peut me faire un procès. Le concernant, c'est pas une injure, c'est un qualificatif. Et mon avocat aura aucun problème à le prouver lors de l'audience.
Très bien. C'était très bien.
Très bien. Très bien. Mon cher Philippe Binger, vous avez l'air complètement...
Très concentré.
Oui, concentré sur Philippe David. Vous n'en revenez pas.
Réponds.
Non, mais réponds.
Non, en une phrase. Allez-y.
Faites-vous plaisir. Je ne pense pas que Civitas, à partir de cette maladresse odieuse, soit complice de tout ce qui s'est passé à l'époque. C'est tout ce que je veux dire.
Mais reprendre un film d'ultra-collaboration commandé à Goebbels...
Comment s'appelle le gars qui a été fusillé ?
Alors, et leur nom, c'était... je vais te dire le nom. J'en ai pour une seconde.
Mais je ne veux pas le mettre en difficulté, notre ami.
Non, mais enfin, il sait tout sans tout savoir.
Voilà.
Hein.
Alors moi, Christophe, j'en profite.
Vous pouvez parler dans le micro, surtout.
J'ai quelque chose pour la promotion de la femme.
Elles en peuvent plus déjà.
Un premier prix Abel pour une femme.
Mais parlez dans le micro.
Oui, mais je lis en même
temps.
Mais on peut faire les deux.
Un premier
Philippe.
Prix Abel pour une femme, une américaine qui a été lauréate du Nobel des maths. Alors ne m'interrogez pas, Christophe, pour deux motifs. D'abord, j'ai toujours été nul en maths. Je n'ai rien compris à la raison pour laquelle elle a eu le prix Nobel des maths.
Allez, on va faire
et
ça.
Et deuxième élément, je suis parti en trombe de chez moi et j'ai oublié le petit article qui m'aurait permis de faire le fier devant vous.
6 fois 4.
24.
Eh ben voilà, vous êtes bon en maths, bravo.
Le calcul mental, il n'y a jamais eu de problème.
Alors, j'ai les noms des deux personnes. C'était Jean Mamy, c'est lui qui a été fusillé à la Libération. Et Jean Marques Rivière, c'est lui qui a eu l'asile chez Franco.
Voilà,
bravo.
Vous savez
merci.
Tout.
Vous savez tout.
Notre vraie voix régionale du jour est avec nous, Eric. Eric, ouvrier en bâtiment, qui est à Béziers. Bonsoir, mon cher Eric.
Oui, bonsoir, Sud Radio.
Comment ça va, Eric ?
Très bien, très très bien.
Bon,
très,
ça, très bien. Ça fonctionne dans le bâtiment, là, ou pas ?
C'est un petit peu calme en ce moment.
Ah, c'est un peu calme ? Bon.
Oui, un petit peu calme dans la région où je suis. Mais bon.
Bon. Dites-moi, quelle est votre actualité du jour, vous ?
Alors moi du jour, c'est quelque chose qui me choque énormément, c'est l'amateurisme de notre gouvernement face à la crise des Gilets jaunes, surtout celle de notre ministre de l'Intérieur,
Vous ne l'avez pas croisé en boîte récemment à Béziers, par hasard, voilà, Castaner, non.
J'ai pas vu Patrick Swayze, non, j'ai pas vu.
D'accord.
Bref, bon. qui ne reconnaît aucune de ses erreurs et qui a la bonne idée de déployer les forces françaises de l'armée sur le territoire français face à des manifestants français.
Oui.
Je suis extrêmement choqué à cette idée, parce qu'en tant qu'ancien militaire, j'ai été engagé 5 ans dans l'armée, dans les troupes de marine, je sais très bien que les militaires n'ont ne sont pas formés justement pour le maintien de l'ordre justement face à les manifestants. Donc ce qui m'inquiète énormément, c'est la réponse qu'ils vont pouvoir avoir face à des manifestants, si jamais ils se font attaquer. Mais ce que j'ai peur aussi pour le gouvernement, c'est qu'à ce petit jeu-là, ça se retourne aussi contre eux. Parce que j'ai du mal à imaginer des militaires tirer sur la foule, plutôt oui. poser leur fusée ou plutôt poser leur casque. Et là, ça se retournerait peut-être contre eux.
Enfin, alors effectivement, là où vous avez raison, c'est que on a l'impression d'être face à une équipe quand même d'amateurs, hein, gouvernementale, pardon de le dire. Mais enfin, on sent bien qu'il y a panique à bord et qu'il faut trouver des solutions rapidement pour essayer de maintenir le calme, puisqu'on a vu que samedi dernier, malheureusement, ça n'était pas le cas, notamment sur les Champs-Élysées. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je suis moins inquiet que vous par rapport à la présence des militaires, puisque les militaires de l'opération Sentinelle vont donc garder, a priori, un certain nombre de bâtiments publics. Mais ils seront normalement assez loin des manifestants. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs zones tampons qui seront mises en place avec, justement, les policiers qui, jusqu'à présent, étaient statiques et devaient rester aux abords de ces bâtiments publics, qui là vont pouvoir véritablement faire leur travail de policiers auprès des manifestants et surtout auprès des Black Blocs, bien évidemment. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème en fait en réalité avec les militaires et que les policiers pourront enfin faire leur travail justement auprès des manifestants. Voilà. Après, quand vous dites, moi je suis désolé, hein, on a eu ce débat un peu ce matin déjà, mais l'opération Sentinelle, ils ne sont là pour lutter contre le terrorisme. On peut toujours me dire que les Black Blocs ne sont pas des terroristes. En tout cas, ils terrorisent les gens. Donc pour moi, ça revient au même. Et finalement, ça ne me paraît pas complètement dingue que les militaires prennent leur part dans l'histoire. Voilà, je vous le dis franchement. On n'est pas obligé d'être d'accord, hein, Eric, bien évidemment. Mais en tout cas, là-dessus, voilà. Bon, l'autre question qu'on peut se poser, c'est par rapport au pouvoir, évidemment, c'est est-ce qu'il ne déploie pas les militaires juste pour se protéger lui, plutôt que protéger les bâtiments publics? C'est une question qu'on peut se poser. Philippe, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet.
Voix sur Sud Radio avec Laura Tenoudji, Philippe David, Philippe Bilger, Trina Magdin, bien sûr. Et on vous pose cette question dans les vraies voix. Les prix de l'essence qui flambent à nouveau et c'est pas fini. Un cercle de réflexion proche du gouvernement affirme qu'il faut augmenter la taxe carbone une bonne fois pour toutes. Taxe carbone à l'origine de la colère des Gilets jaunes pour la redistribuer intégralement aux Français les plus en difficulté. Bonne ou mauvaise idée, on vous attend. 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Trina.
Les auditeurs de Sud Radio sont toujours contre. On a ça à bouger un petit peu pendant la pub. On est monté à 97% et on est redescendu là à 95%.
Qui a eu cette idée folle d'augmenter le prix du gazole? Qui a eu cette idée folle d'augmenter le prix du gazole? C'est ce sacré Jupiter, sacré Jupiter.
Ah oui. Philippe Binger, augmenter la taxe carbone à l'origine de la colère des Gilets jaunes pour la redistribuer intégralement aux Français les plus en difficulté.
Alors,
bonne ou mauvaise idée?
Je dirais une idée un peu ambiguë. Dans la mesure où je peux comprendre que La République En Marche et le pouvoir macronien aient envie en quelque sorte de prendre sa revanche et de faire revenir la taxe carbone qui était sortie par la porte à cause des Gilets jaunes.
Qui a été gelée pour 2019, annulée
par la fenêtre.
L'augmentation, hein.
Et évidemment, ce ne serait pas une taxe carbone avec les effets désastreux d'avant, puisque vous l'avez dit, on la redistribuerait. À la population et notamment aux Gilets jaunes. Mais je me demande si psychologiquement, le désavantage ne sera pas plus considérable que les avantages qu'on pourrait indiquer, et notamment, c'est pas la même, qu'elle va servir à tout le monde, mais qu'en même temps, ça va raviver quelque chose. Donc, moi, je pense que globalement, c'est plutôt une mauvaise idée.
Allez, Laura.
Non, j'aime bien parce que toutes les précautions oratoires qu'a pris Philippe Bilger pour dire que finalement, c'était une mauvaise idée.
C'est ça.
Oui,
c'est ça,
hein. Mais parce que ça n'est jamais simple, la réalité, alors... contrairement à ce que croit souvent Christophe.
Non, mais il n'y a pas que Christophe qui pense que la réalité est simple. Parce que si on lit les réseaux sociaux et les commentaires, il n'y a pas un commentaire qui abonde dans le sens « c'est une bonne idée ». Pas du tout. Tout le monde, personne ne comprend. Et en plus, c'est très politique de redire « ça sera redistribué aux gilets jaunes ». Qu'est-ce que c'est démago.
Alors, c'est interdit d'affecter une recette à une dépense.
Tous les commentaires vont dans ce sens. Alors, je ne dis pas tous parce qu'il y a quand même des insultes.
Parlez bien dans le micro.
Oui, c'est à force de fréquenter Philippe Bilger, je prends ces tics.
Bah oui.
Le retour de la taxe carbone, bande de guignols, même redistribuer cette taxe reste à la charge des classes moyennes. Et on n'a jamais autant retweeté Ségolène Royal qui a dit que c'était une très mauvaise idée. Donc, pour une fois, elle est retweetée de manière positive.
Bah oui.
Donc, alors, les réseaux sociaux trouvent que c'est une très mauvaise idée.
Très mauvaise idée.
Alors, je dois avoir raison.
C'est une très mauvaise idée, c'est ce qui se dit sur Twitter, bien sûr. Non mais, attendez, ça voudrait dire, parce qu'on le disait à l'instant, les classes moyennes vont être impactées à nouveau. En fait, ce sont les classes moyennes et moyennes supérieures qui sont celles qui paient déjà aujourd'hui le plus d'impôts en France, qui devraient payer, le cas échéant, cette forte augmentation de la taxe carbone. C'est ça la réalité. Ce sont les classes moyennes qui seraient directement impactées, Philippe David.
Mais c'est là où c'est un pur scandale. J'ai l'impression qu'il y a...
En même temps, il faut bien prendre l'argent quelque part.
Excusez-moi, d'un point de vue psychanalytique, je pense que ce gouvernement doit avoir des pulsions masochistes. Et qu'il
je
aime...
suis bien d'accord.
Et qu'il aime donner les verges pour se faire fouetter.
Ah, il y a longtemps que vous ne l'aviez pas sorti, les verges.
Mais oui, c'est une expression de français châtié.
Tout à fait.
Mon cher Christophe.
Oui.
Les gens sont descendus sur les ronds-points à cause de la taxe carbone. Et qu'est-ce qu'on fait au bout de 4 mois, alors qu'on l'avait annulé le 10 décembre dernier? Eh bien, on va remettre la taxe carbone.
Mais surtout après le samedi qui vient de se passer.
Surtout après le samedi qui vient de se passer.
Mais est-ce que ça serait quand même pas une bonne idée d'augmenter fortement cette taxe carbone pour finalement faire diminuer la consommation de carburant en France?
On ne la fera pas diminuer comme ça. Moi, je vais vous proposer qu'on modifie une autre taxe carbone, sera beaucoup plus intelligente. Oui. On l'augmente massivement sur les porte-containers. Oui. On l'augmente massivement sur le kérosène. On l'augmente massivement sur le carburant des yachts, parce que je vous dis un truc.
Et vous croyez que ça rapportera autant?
Ah ben bien sûr, si vous taxez les porte-containers vu ce que ça consomme par heure, vous allez voir que là, ça va faire mal.
Oui.
Pourquoi? Parce que c'est eux qui polluent beaucoup plus. Le parc mondial de porte-containers pollue plus que tout le parc automobile mondial. Mais qui est-ce qui fait du lobbying? Les grosses entreprises dont les containers sont sur tous les océans du monde et qui ont les moyens de mettre la pression.
Si l'essence devient encore plus chère avec cette taxe carbone, est-ce que ça n'obligera pas quand même les plus aisés à changer de véhicule pour des véhicules propres? Ou dits propres.
Des véhicules propres ou dits propres, mais...
Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet.
Les vraies voix sur Sud Radio avec cette question. Les prix de l'essence qui flambent à nouveau et c'est pas fini. Un cercle de réflexion proche du gouvernement affirme qu'il faut augmenter la taxe carbone à l'origine de la colère des gilets jaunes pour la redistribuer intégralement aux Français les plus en difficulté. Bonne ou mauvaise idée? Venez nous le dire, on vous attend, on va vous écouter dans quelques instants. 0826 300 300. Et bien sûr les réseaux sociaux. Trina.
Mais les auditeurs de Sud Radio sont toujours contre à 95%, donc au moins c'est très clair.
On a le plat à la maison. Allez les gens,
Christophe, comment on appelle quelqu'un qui travaille dans une station-service?
Non, mais vous allez me dire, un pompiste?
Non, s'il est à la pompe, mais s'il est ailleurs, à la caisse.
Ah, je sais pas.
Dans tous les cas de figure, ça s'appelle une recrue d'essence.
Mais qu'est-ce que vous avez mangé avant de venir?
Je crois qu'il a mangé de la viande industrielle.
J'ai mangé de la viande industrielle.
De la viande industrielle dégueulasse. Et donc voilà le résultat.
Mais
c'est horrible, hein. C'est horrible. Ah oui,
surtout
ça a
que
le
dernier
sur le cerveau,
bouton
hein.
De la chemise de Philippe va exploser.
Oui. Ouais, c'est vrai.
Pour ceux qui nous regardent en vidéo.
Ça, c'est autre chose. On en a parlé hier. C'est tous les plastiques qu'il a ingurgités en mangeant des poissons.
Faites très attention. Il y a quelqu'un qui écoute qui m'a envoyé un texto. Bouillon de légumes et rien de plus.
Voilà. Ah oui, un petit bouillon de poule ce soir et au
c'est
lit.
C'est ça.
Voilà, hein, ça suffira.
Et il y a 2-3 jours, vous aviez une sorte de chemise largement ouverte sur un torse. Ça m'a étonné, le genre Ralph Wallon chez vous.
Ça vous a excité, Philippe ?
Non, mais j'ai été étonné que Philippe soit si content de ses poils qu'il les montre.
Mais... Je ne sais pas trop ce qui se passe entre vous, mais entre Philippe Davin qui dit sans arrêt qu'il vous a vu en caleçon, et vous maintenant qui dites « Oh ben j'ai vu ton torse », on se demande quand
même. Mais c'est prof, n'oubliez pas que je n'étais pas une bombe, il s'agissait de bombes à raser. Hein.
Ah d'accord.
Oh non,
oui.
vous étiez une bombe atomique.
Bon, alors, revenons à notre débat.
Sérieusement,
revenons
la
à
taxe
notre
au
débat.
Carbone.
Ouais, la taxe carbone à l'origine de la colère des gilets jaunes. L'idée, c'est de l'augmenter très fortement et de la redistribuer intégralement aux Français les plus en difficulté. Hein, idée d'un cercle de réflexion proche du gouvernement, je le rappelle. Vous êtes nombreux à nous appeler au 0826-300-300. Il y a René du Tarn qui est avec nous. Salut René.
Oui, bonjour Christophe, comment allez-vous ?
Très bien, et vous-même René ?
Très, très bien, vous m'entendez bien ?
Alors, on vous entend très bien, ça passe très bien entre le Tarn et le studio de Sud Radio. Hein.
Bonjour René.
Ouais, ouais.
Bonjour.
On sent qu'il n'y a pas de brouillard, quoi, hein. Ça fonctionne super.
Ouais. Magnifique à Toulouse et à Castres, c'est magnifique.
Ah ben voilà, ben, écoutez, c'est partout comme ça en France pratiquement. Alors dites-moi, vous, quand vous entendez cette question sur la taxe carbone, vous avez quoi, les poils qui se hérissent ou vous dites c'est très bien ?
Ah ben non, j'ai plus de cheveux sur la tête là d'un seul coup. Là,
ah ben comme, vous êtes comme Philippe David. Voilà. C'est la vie.
Non, je trouve que c'est quand même très dangereux ce qu'ils font. Écoutez, les gilets jaunes se sont manifestés parce que justement il y avait cette taxe et aujourd'hui ils en remettent une autre. Enfin, il y a des cinglés au gouvernement ou quoi. Ils veulent la guerre civile, ils veulent quoi. Moi je comprends pas. À mon avis, ce sont des énarques qui veulent. Ils vont pondre une usine à gaz pour redistribuer quelque chose. Donc ça va coûter de l'argent. Il va falloir payer des gens à redistribuer cet argent. Enfin, c'est n'importe quoi tout ça. Qu'on baisse le prix de l'essence et tout le monde sera content. Macron aurait fait ça le premier samedi. Il aurait dit, je supprime, je sais pas moi, 20 centimes de taxes sur l'essence et sur le gasoil. Il n'y aurait plus eu de gilets jaunes, il n'y aurait plus rien.
On n'en serait pas là aujourd'hui, quoi, c'est ce que vous dites.
Et ça serait terminé, il n'y aurait plus rien, tout le monde était content. Et alors, ils s'entêtent avec ces bêtises à la noix et à faire des impôts. C'est une mode aujourd'hui, hein, depuis Mitterrand, c'est une mode de faire des impôts supplémentaires.
Ah ben, comme l'a dit Ségolène Royal ce matin, on ne peut pas dire qu'elle n'était pas proche de Mitterrand quand même, hein, une certaine époque.
Oui.
C'est de l'hystérie fiscale. Donc, c'est bien de s'en apercevoir, voilà.
Il serait temps de le dire et que le gouvernement s'en aperçoive et qu'ils arrêtent leurs bêtises. Vous disiez hier, j'écoutais là, est-ce que les petites TPE sont assassinées fiscalement ? Mais c'est le cas, tout le monde est assassiné fiscalement. Moi, je dis, il faut arrêter ces bêtises, il faut baisser les taxes, il faut tout baisser partout. Et surtout, pour que le gouvernement...
Alors, c'est vrai que les charges, René, c'est vrai que les charges, elles servent aussi à quelque chose, hein, évidemment. Ça permet de financer un certain nombre d'aides sociales, par exemple. Bon, voilà, s'il y a moins de prélèvements, il y aura aussi moins d'aides sociales et il y aura d'autres mécontents, évidemment.
Et moi, je dis qu'on coupe les aides sociales. C'est ce qu'a fait Reagan, il y a un certain nombre d'années aux États-Unis. Et d'un seul coup, tout est reparti. Parce que les gens se sont mis au boulot. Encore une fois, il ne faut pas se demander ce que l'État peut faire pour nous, mais ce que nous pouvons faire pour notre pays.
Ah oui.
Et on travaille.
Il faut changer de mentalité, là.
Ça, c'était Kennedy, ça, c'était pas Reagan.
Il faut changer de mentalité.
Kennedy avait dit ça.
Oui, Kennedy.
Eh bien, moi, je dis, faisons ça en France. Baissons les taxes, baissons tout ça et arrêtons de dépenser de l'argent que nous n'avons pas.
Merci, René, d'avoir appelé du Tarn dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Les prix de l'essence qui flambent, un cercle de réflexion proche du gouvernement qui affirme qu'il faut augmenter la taxe carbone à l'origine de la colère des gilets jaunes pour la redistribuer intégralement aux Français les plus en difficulté. Cathy des Pyrénées est avec nous au 0826-300-300. Bonsoir, ma chère Cathy.
Bonsoir à vous tous.
Comment ça va, Cathy ?
Ça va bien avec le soleil.
Ben voilà. Mais ça, c'est grâce à Rémi André, notre monsieur météo. Il faut le remercier. C'est lui qui a commandé le soleil est arrivé, voyez-vous.
Ah, mais il a bien fait. Hein.
Il a bien fait. Bon, dites-moi, quel est votre sentiment, vous, avec cette idée de ce cercle de réflexion ?
Alors, oui, c'est donc cette taxe carbone, donc moi je suis contre, forcément. Mais du fait que les prix ont à nouveau augmenté, flambé même, du fait déjà qu'il existe dans ces prix une taxe carbone, vu que les prix ont augmenté, la taxe carbone a augmenté.
Effectivement. Quand le prix du brut augmente, les taxes qui vont avec à la pompe augmentent toutes.
Et quand le prix du dollar augmente, comme on paye le pétrole en dollars, les taxes augmentent mécaniquement.
Oui, absolument. Donc effectivement, vous avez raison.
Donc voilà. Et je voulais savoir déjà cette taxe carbone qui existe depuis très longtemps, en fait. Qu'est-ce qu'ils en font ? Où elle va, déjà, celle-là ?
Ben, on l'a vu au début de l'affaire des Gilets jaunes, le 17 novembre, puisque c'est là, un petit peu, qu'on a débroussaillé un peu tout ça, et on s'est aperçu qu'il n'y avait que 10% du prélèvement des taxes sur l'essence qui allait véritablement à la transition énergétique et écologique. Donc, on voit bien, quand même, que cet argent sert essentiellement, finalement, à financer des aides sociales, par exemple,
et à combler le déficit de l'État.
Et à combler le déficit. Enfin, on essaie de combler le déficit, mais il ne se creuse en permanence, c'est en clair. Même temps. Hein.
Mais Christophe, tout à l'heure, cette auditrice et le précédent René, c'était intéressant parce que contrairement à ce que veulent en général les Français, c'est-à-dire à la fois moins d'impôts et plus d'aides sociales, lui, il proposait de couper des aides sociales.
C'est vrai, Philippe.
Non, mais je suis passé à Saint-Tropez l'été dernier. Ah. Je trouvais que c'est quand même terrible de voir.
Vous
que
avez un yacht là-bas ?
Non, j'en ai pas les moyens. Ah, mais bon, quand je vois des gens qui ont des yachts à plus de 100 millions de dollars. Oui. Qui ont un carburant détaxé pour aller naviguer sur leur yacht.
Un carburant détaxé ?
Bien sûr, le carburant des yachts est détaxé, c'est le carburant de navire, c'est comme le kérosène. Pour leur jet privé, ils ont un carburant détaxé.
Ah,
alors que vous allez faire votre plein à la petite station-service qui est au bout du port en allant vers la route principale qui vous mène à l'autoroute, là vous êtes taxé plein pot. Je me dis quand même qu'on est un pays qui marche un peu sur la tête.
Vous avez pu tout de même aller à Saint-Tropez.
Oui. Bravo. Oui. Ah oui, il y est allé avec sa petite...
Vous êtes resté longtemps ?
Oui.
Non, une après-midi, une journée.
Vous avez nagé un peu
Oui, en rentrant.
On s'en bat les couilles.
Allez, chers amis, on vous pose cette question dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Les prix de l'essence qui flambent à nouveau et c'est pas fini. Un cercle de réflexion proche du gouvernement affirme qu'il faut augmenter la taxe carbone à l'origine de la colère des Gilets jaunes pour la redistribuer intégralement aux Français les plus en difficulté. Bonne ou mauvaise idée ? Résultat définitif sur les réseaux sociaux, ma chère Trina.
Eh bien, ça a beaucoup bougé dans la dernière minute là et c'est contre à 96%.
96%, eh bien voilà, résultat définitif. Notre vraie voix du jour est une combattante. Au moins depuis 2008, elle dénonce la maltraitance animale dans les élevages, les abattoirs, les gavages de canards et d'oies, nos canards et nos oies du sud-ouest qu'on aime tant, surtout pendant les fêtes, dans nos assiettes. Bref, les vidéos de son association font souvent mouche, sont souvent difficiles à regarder. Pas toujours soutenable, c'est vrai. Co-fondatrice de L214, l'association Notre Vraie Voix du Jour, Brigitte Gauthier est avec nous.
Bravo.
Bonsoir.
Merci,
Brigitte Gauthier, d'être avec nous pour le livre La face cachée de nos assiettes. C'est chez Robert Laffont. Merci d'être avec nous, donc, Brigitte.
N'ayez pas peur, hein, le débat ne sera pas une boucherie.
Ça, il faut voir. Il faut voir. Alors, écoutez, Brigitte, bon, moi, j'ai lu votre livre. Voilà, j'avais envie de vous dire la chose suivante. Ma grand-mère gavait des oies et des canards avec un appareil mécanique. Voilà, tout simplement. Les Romains, les Égyptiens le faisaient donc aussi. Ça fait partie de notre culture. J'ai envie de vous dire de manière un peu provoque, c'est vrai, lâchez-nous les baskets. Nous, les sudistes, laissez-nous bouffer nos foie gras en paix, s'il vous plaît. On n'en peut plus de ces gens qui nous disent « il ne faut plus gaver les canards, il ne faut plus gaver les oies ». Mais c'est ancestral. Ça dure depuis la nuit des temps.
Est-ce que ça, c'est une raison...
En quoi ça vous gêne ?
En quoi ça me gêne ? Ça me gêne parce qu'il y a une situation d'injustice profonde. Vis-à-vis des autres animaux. Les animaux sont des êtres doués de sensibilité.
Oui.
On sait que quand on veut produire du foie gras, on va déclencher chez eux une maladie qui s'appelle la stéatose hépatique. Et pour obtenir justement un flux de graisse qui va rester coincé dans le foie pour faire... aujourd'hui, les foies atteignent 10 fois leur taille normale. 10 fois. C'est juste énorme. Voilà, imaginez-vous avec un foie de 10 fois sa taille normale.
Mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau.
On n'a pas été
regardé. Et puis il y a une filière qui emploie des gens.
Mais est-ce que l'économie doit tout justifier ? Alors on peut continuer de fabriquer des armes, des mines antipersonnelles.
Parce que ça continue, va faire du machin. On confirme, on continue.
Mais est-ce que pour autant c'est moral ? Est-ce que pour autant
mais alors
c'est
à ce
juste...
moment-là, il y a tellement de choses qui sont amorales qu'on ne fait plus rien. Hein. Moi, je vous dis, on va bouffer de l'herbe comme les vaches, hein, et puis on va rester assis dans notre fauteuil.
Oh, quelle caricature, ça c'est un joli
cliché. Mais non, mais c'est vrai, écoutez, pardon, je suis fils d'agriculteur. Alors oui, on avait des vaches à la maison, oui, il y avait des veaux, et les veaux, ils étaient destinés à quoi ? Ils étaient destinés au bout de 4 mois à l'abattoir, voilà. C'était des veaux de lait, ils étaient destinés à l'abattoir. Ben oui, ils ont été tués, ils ont été mangés, et pourtant on les avait élevés pendant 4 mois, avec, je pense, beaucoup d'amour d'une certaine manière, mais... en tout cas en leur donnant bien à manger, bien à boire, etc., etc. Et ça ne nous a pas empêchés de les faire tuer pour les manger.
Christophe, c'est la vie. Le débat, il est là aussi. Vous parlez de veaux qui sont élevés avec amour en plein air, et votre association défend justement ce type d'exploitation. On condamne l'exploitation industrielle aussi. Et heureusement qu'il y a des associations comme ça. Quand on voit récemment, vous avez posté une vidéo sur les œufs de caille, le traitement des bêtes. Même si on revient à l'époque médiévale, on ne les traitait pas comme ça, elles n'étaient pas mises dans des caches. Donc c'est aussi la façon, après on n'est pas obligé d'être tous végétariens. Moi je suis pour cette association et je la félicite.
Non, parce que c'est vrai que cette dictature du végétarien, il y en a ras-le-bol.
Non, mais il n'y a pas de dictature. Moi je suis flexitarienne.
Voilà, c'est-à-dire que vous êtes sur la route, quoi, sur le chemin.
Non, je ne compte pas devenir végétarienne. Je mange juste de la viande en ayant connaissance de son origine et de la façon dont elle a été élevée. Donc, je choisis mon boucher en fonction et je limite ma consommation de viande. De toute façon, c'est pas bon de manger de la viande tous les jours. Et je pense qu'on peut avoir une consommation raisonnée. On n'est pas obligé de devenir un ayatollah et de manger des graines toute la journée.
Évidemment, on ne sait pas toujours d'où vient la viande dans les supermarchés. Je suis bien d'accord avec vous. Parfois, on se demande d'où elle vient tellement elle est mal découpée, par exemple. On se dit, mais c'est quoi ce travail ? Donc, on se pose des questions. Mais il y a tellement de gens aujourd'hui, tous ces gens qui sont dans la rue le samedi, qui sont en difficulté, est-ce qu'ils ont d'autre choix que d'aller acheter de la viande, s'ils aiment ça, au supermarché.
Ça, je suis d'accord avec vous. Mais
est-ce qu'ils ont d'autres choix ?
Que si
vous avez
si
vu
on
le prix
condamne,
de la viande,
non, mais si on condamne ces méthodes, ça obligera les industriels à se remettre en question et à proposer d'autres produits. C'est parce que pour l'instant, tout est autorisé. Et les œufs en. Enfin, les cages les poules en cage et tous ces œufs qui sont dans les gâteaux de nos enfants et qui, en plus, nous atteignent. Et moi, je crois énormément que moins on mange bien, plus on a ces œufs qui sont dégueulasses partout. Ça génère des maladies aussi. Quand on voit le nombre de maladies aujourd'hui, de cancers, je pense que la nourriture y est pour quelque chose. Donc c'est aussi pour nous qu'il faut le faire.
Philippe.
Laura, pardon.
Laura est à côté de vous.
Quelle flamme, quel enthousiasme.
Ouais.
Alors, c'est Brigitte, moi, je ne ferai pas de mal à une bête dans la quotidienneté, mais est-ce que tout ça n'est pas un peu ridicule, au fond ? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a une sorte, non pas d'indifférence à l'égard de l'humain, mais une forme de désaffection et que vous attachez à la cause animale, alors qu'au fond, on peut considérer qu'elle n'est pas fondamentale ? On mange, est-ce qu'il est choquant de ne pas s'intéresser à la souffrance de l'animal ?
Oui, c'est assez choquant.
C'est une bonne
choquant,
question,
en fait.
Ça.
Aujourd'hui, les études cognitives nous montrent que les animaux éprouvent tout un tas d'émotions au même titre que nous. Ça peut être un peu différent, mais comme ça peut être différent entre nous autres, qu'ils sont conscients même. Ça a été montré en 2012... la déclaration de Cambridge, qui était des neuroscientifiques qui ont posé justement le fait que les animaux ont aussi des formes de conscience. Donc on voit très bien qu'on est en face d'êtres doués de sensibilité. Et il y a deux questions en fait aujourd'hui. Il y a la question effectivement de la légitimité à continuer d'utiliser des animaux comme des ressources alimentaires, alors que on sait très bien faire autrement. Aujourd'hui, nutritionnellement, on sait très bien qu'on peut faire autrement. Donc ça, c'est une première question. Mais il y a une deuxième question, c'est qu'aujourd'hui, même pour les personnes qui consomment de la viande encore, il y a les conditions d'élevage et les conditions d'abattage. Vous disiez que on sait, quand on consomme en bio, quand on choisit chez son boucher, comment les animaux ont été élevés, traités, etc. On a montré les images, notamment des abattoirs dans lesquels les animaux étaient abattus sur des filières courtes, sur des filières label rouge, sur des filières bio. Ce sont les mêmes conditions d'abattage pour les animaux et c'est tout aussi terrible à regarder.
Et le halal ?
Et on a montré aussi...
Le halal, il faut en parler
façon,
aussi.
Halal et cachère, oui, sans étourdissement.
Sans étourdissement,
sans étourdissement aussi. Mais on a des conditions d'abattage. Enfin, il ne faut pas penser non plus que quand les animaux sont abattus avec un coup de pistolets à tige perforante, ou qu'ils sont électrocutés, ou qu'ils sont gazés, c'est une partie de plaisir pour eux. Alors, on
non,
peut avancer...
Sûr.
Si on veut les manger, il faut bien les tuer. Oui. On ne va pas les manger vivants en même
est-ce
temps.
Que justement...
Oui, mais notre morale commune, c'est quand même, on ne doit pas maltraiter et tuer sans d'accord. nécessité. Du coup, est-ce qu'on n'a pas des questions à se poser sur la place qu'on accorde aux animaux aujourd'hui ? Et pas se draper derrière « Ah, j'aime trop ça » ou « Oh, on fait ça depuis tellement longtemps, on va absolument pas se poser des questions. Sinon, bah, nous, le statut des femmes, si on n'avait pas changé, ben, je serais pas là en train de vous parler. »
C'est pas le même registre.
Et voilà, bah, c'est peut-être pas le même registre, mais c'est des luttes progressistes pour que notre sphère de considération morale s'étende aussi à tous ceux qui ont intérêt à être dans cette sphère, c'est-à-dire à être considérés comme des êtres doués de sensibilité, simplement.
Ma chère Brigitte Gauthière, votre livre « Face cachée de nos assiettes », la face cachée de nos assiettes. On va continuer d'en parler dans un instant, mais on va jouer ensemble, figurez-vous. Dans cette émission, on joue tous les jours, à la même heure, et on va jouer ensemble, puisque vous aimez l'actualité, j'en suis sûr, au roi de l'info. Et vous serez peut-être la reine de l'info ce soir. Qui sait si vous répondez à toutes les questions?
Ça m'étonnerait.
Une question, trois réponses. Une seule est bonne, évidemment, à chaque fois. Et la plus rapide ou le plus rapide remporte notre trophée. La tour Eiffel de l'actualité. Cette magnifique tour Eiffel en ferraille d'une vingtaine de centimètres. Trina.
Alors, première info. Dans le New Jersey, un petit garçon de 12 ans atteint d'autisme a appelé le 911 pour une demande assez spéciale. Laquelle? Est-ce pour une livraison de repas, pour un ours en peluche ou pour candidater pour être policier?
Ah, alors, proposition. Tiens, Brigitte.
Brigitte.
Pour être policier.
Perdu.
Perdu.
La Laura. Une.
Perdu. Ah, alors,
la peluche.
Ah oui, quelle perspicacité. En fait, il a dit au policier qu'il avait au téléphone « L'ours en peluche est encore tombé, ne t'inquiète pas, je vais te sauver, à bientôt. » Et il a raccroché sans attendre de réponse du policier.
C'est
mais justement, ce
tout,
policier
ça.
Avait reçu une formation spéciale à la reconnaissance de l'autisme. Donc, il a compris la situation. Il est allé au
très
domicile
bon,
de l'enfant.
Bon. Ah oui.
Il l'a rassuré, il l'a aidé à retrouver son ours en plus. C'était une belle histoire.
Allez, on continue.
Allez, deuxième info, toujours trois propositions. Dimanche, au Mans, sur le marché des Jacobins, des bénévoles ont organisé un concours et un record du monde assez insolite a été atteint. Mais alors, lequel? Le record du monde du plus grand nombre de pommes écrasées avec le coude, le record du monde du plus grand sandwich de rillettes ou le record du monde de la plus grande mosaïque de légumes?
Rillettes.
Bonne réponse.
Oui.
On n'en a pas parlé hier.
Non. 150 baguettes et 40 kilos de rillettes, donc 140 pots, 72
mètres. Il y en a du cochon qui a été tué là-dedans.
Ça devait être bon.
Complètement.
Hein.
Et on sait que les cochons, c'est 95% d'entre eux qui sont élevés en bâtiment sans accès à l'extérieur.
C'est vrai. D'ailleurs, on voit vos images parfois et on est un peu halluciné. C'est vrai.
Et troisième info, Damien, 34 ans, habitant de la Varenne-sur-Seine en Seine-et-Marne, a fait une découverte assez improbable dans sa canette de soda. Mais alors quoi? Est-ce que c'est une souris, une photo d'identité ou une bague en diamant?
Allez, Brigitte.
Probablement une souris.
Oui, bravo.
En fait, il a bu la totalité de sa canette avant de s'en rendre compte. Et quand elle était vide, il a trouvé plus lourde que d'habitude. Donc, il a regardé et il y avait une souris. Donc, il a contacté la marque américaine qui dit que ce n'est pas possible parce que leurs contrôles sont très stricts. Mais ils ont fait un geste, si on peut appeler ça un geste. Ils lui ont offert un bon d'achat pour un pack de canettes.
Oh, bah c'est sympathique. Voilà. Hein. Allez, and the winner is... Hein et voilà, quatrième jour consécutif, trois gagnants. Il faut donc découper cette tour Eiffel en trois.
Ça va être dur.
Va chercher la scie sauteuse. Bon, ben
donc
écoutez,
c'est classique.
Trois gagnants, hein, c'est comme ça. Voilà. Bon, nous avons Laura, nous avons Philippe et nous avons Brigitte. Brigitte qui reste avec nous, bien sûr. Brigitte Gauthière. On se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix pour votre livre La face cachée de nos assiettes chez Robert Laffont. A tout de suite.
Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet.
Les Vraies Voix sur Sud Radio avec notre vraie voix du jour qui se bat pour le bien-être animal, Brigitte Gauthière, pour le livre La face cachée de nos assiettes chez Robert Laffont. Vous êtes cofondatrice, je le rappelle, de l'association L214. Alors vous filmez toujours un peu en cachette les animaux maltraités. J'ai envie de dire, c'est quand même un peu à la limite de la légalité. C'est des méthodes un peu à la Greenpeace, non?
En fait, pour montrer ce qui se passe à l'intérieur des élevages, comme on a une
d'ailleurs,
opacité
d'ailleurs, qui filme, ce
totale,
sont des gens de l'association ou...
Eh ben, ça dépend.
Vous commanditez vos films.
On a eu et on a toujours des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des personnes qui travaillent ou qui ont accès à des élevages, aux questions des transports, les abattoirs, en aquaculture, des personnes qui y travaillent et qui sont complètement outrées par ce qu'elles y voient. C'est par exemple le cas de Mauricio Garcia Pereira, qui travaillait à l'abattoir de Limoges et qui nous a permis d'obtenir les images de cet abattoir. Alors lui, il a accepté de... Enfin, c'est même lui qui a demandé à témoigner publiquement. Mmh. Donc voilà, lui, on peut dire qui il est. Mais par exemple, les images qu'on a sorties ce matin sur l'élevage des cailles en cage, c'est 100% des cailles qui sont en cage. Quand vous achetez des œufs de cailles, c'est forcément des cailles qui ont été élevées dans des cages, eh bien,
dans un espace très réduit, donc comme les poules. Voilà. Enfin, c'est la même chose.
Et ben là aussi, c'est une personne de l'intérieur.
Dites-moi, Brigitte, ceux qui ont attaqué les boucheries dans le Nord et qui passent en justice, les véganes, là, ce sont des terroristes ou pas ?
Des terroristes, le mot est fort. Maintenant,
c'est comme
nous,
ça qu'ils sont qualifiés par ceux qui les accusent, en tout cas.
Voilà, par ceux qui les accusent. Nous, on est opposés à ce type d'action. Nous, on est vraiment une association qui essaye de faire tendre notre société vers davantage de bienveillance et davantage de bienveillance aussi vis-à-vis des animaux. Voilà, de les considérer eux aussi avec bienveillance. Et du coup, ça passe effectivement par de la non-violence. Mais ça ne veut pas dire effectivement de la légalité, par exemple, pour pouvoir obtenir des images.
Une petite Brigitte, question.
Oui,
de
très
Philippe.
Vite. Brigitte, moi, je n'y connais rien, encore une fois, à partir du moment où je veux continuer à manger de la viande, parce que j'aime ça, quelles seraient les modalités acceptables pour votre association ? Qu'est-ce qui serait bien ?
Vous me posez une question, une colle, parce que qu'est-ce qui est acceptable ? Du point de vue des animaux, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'acceptable.
En fait, il ne faut plus manger d'animaux.
Voilà,
c'est
pour
ça.
Nous, on ne mange plus d'animaux. Maintenant, il peut exister des conditions d'élevage qui peuvent être différentes. Par exemple, si on prend les poules pondeuses, au couvoir, on va séparer les mâles des femelles, on va broyer tous les mâles. Ça, c'est commun à toutes les filières, que ça aille du bio jusque la cage. Donc, que vous consommiez des œufs bio ou des œufs pas bio, vous allez impliquer le broyage des poussins. On va souvent les débéquer parce qu'on va les mettre en grande quantité, même en bio, plusieurs centaines d'individus dans le même bâtiment.
Donc on coupe le bec.
Ils risquent de s'agresser les uns avec les autres. Ensuite, une fois qu'elles ont 18 semaines, ça va être un an dans les élevages de ponte, bio, plein air, sol ou cage. Au bout d'un an, elles partent à l'abattoir. Voilà. Donc voilà. Et les abattoirs, c'est le même en bio, pas en bio. C'est du transport, etc. Donc
merci.
Voilà.
Merci beaucoup Brigitte Gauthier d'être passée nous voir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio pour vous défendre. Évidemment, on était là pour vous titiller et on l'a bien fait, j'espère.
Et nous, moi, j'avais envie de défendre les animaux et je vous invite à regarder, à lire le livre parce qu'on y parle aussi des conditions dans lesquelles on enquête, des lobbies auxquels on fait face qui sont extrêmement puissants. On l'a vu dans la loi alimentation. La moindre mesure n'est pas passée pour essayer de faire que les conditions d'élevage et d'abattage, au moins des animaux, soient un peu moins pires.
Je rappelle votre livre, La face cachée de nos assiettes, c'est chez Robert Laffont. Évidemment, le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à acheter ce livre. Merci beaucoup Brigitte d'être passée nous voir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Dans un instant, dans Les Vraies Voix, le séisme Benalla, le Sénat décide de renvoyer l'ex-garde du corps de Macron et plusieurs collaborateurs du président devant la justice. Le Sénat a-t-il bien fait ? On vous attend, 0826 300 300. À tout de suite.
Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet.
Et oui, les Vraies Voix sur Sud Radio vont parfois, oui, à un train de sénateurs. Certains en ont l'âge, en tout cas. Philippe David, Philippe Binger, par exemple. Et puis,
il y a des jeunes sénateurs.
Et puis, il y a les jeunes louves qui pourraient être en politique un jour. Trina McDean et Laura Tenoudji, on voterait volontiers pour elles si elles se présentaient, c'est vrai. Vive les femmes au Sénat, vive les femmes à l'Assemblée, vive les femmes au pouvoir. Voilà, c'est tout ce que j'avais
à dire.
Bien.
C'est déjà très bien.
Alors, vous me ferez une chèque en sortant.
On aimerait bien.
Je parle aux femmes
comme
de cette émission.
Comme vous les avez qualifiées de louves, on aimerait bien les entendre faire ouh comme ça.
Ouh, le vilain Philippe David.
Trina.
Tu veux qu'on te fasse un
Laura,
ou
Laura, tu voulais pas nous faire un ouh en cœur ? Un ouh de louve ?
Ouh.
Oh là là, c'est mignon, hein.
Et sensuel.
On fait beaucoup moins bien la poule que vous.
Ouais, comme dirait notre ami Danny Moreau, quand il imite Carla Bruni, ça nous remue le périnée. Hein.
Ah oui ? C'est ce qui s'est passé là.
Ah oui.
Mais dites donc, vous êtes un vieux cochon. Hein.
Ah bah on parlait de L214, évidemment.
Ah, il y a un instant, oui, avec des élevages, horribles élevages. Allez, non, je dis ça parce qu'on va parler politique et affaires. L'affaire Benalla, nouvel épisode. J'ai envie de dire nouveau séisme. Benalla et plusieurs proches d'Emmanuel Macron renvoyés devant la justice à la demande du Sénat. Question, le Sénat va-t-il trop loin ? Est-ce son rôle de saisir le parquet ? Le Sénat a-t-il raison de saisir le parquet et surtout de défier Macron ? Est-il devenu un tribunal politique ? A-t-il raison ? On vous attend. 0826 300 300. Et les réseaux sociaux, ma chère Trina.
Mes auditeurs de Sud Radio sont catégoriques puisque c'est oui à 98%.
Oui, c'est à 98%.
C'est très clair, là, pour le coup.
Ah, ben là, c'est clair. Oui, on va faire du 100%, ça continue.
Oui,
ça,
hein. Je pense qu'on va y venir.
Allez, nouveau tour de table de l'actualité. C'est parti.
À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Non, moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Arrêtez de triquiter pour un oui, pour un non.
Ce que tu dis n'a aucun sens.
Le tour de table.
De l'actualité.
Allez, mon Philippe Binger.
Oh. Alors, je voudrais dire du bien d'un livre de François Bégodeau qui s'appelle « Histoire de ta bêtise ». Alors, il
Histoire
fait
de la bêtise ?
De ta bêtise.
Ah, de ta bêtise.
Il ne fait pas allusion à qui que ce soit ici.
Je croyais que vous parliez de moi, donc.
Non, pas du tout. Je vous regarde par une sorte d'affection médiatique, mais pas du tout pour me cibler.
Uniquement médiatique. Hein.
Voilà. Et sérieusement, le livre est très bon. Parce qu'il met en cause les lecteurs de Macron. Et
c'est-à-dire mais il en dresse le portrait, il fait quoi?
Il s'adresse en permanence à l'électeur de Macron et d'accord. à la bourgeoisie cool en utilisant toujours le mode du tu. Et il a un style remarquable, c'est décapant. Je peux parfois en prendre beaucoup pour mon propre compte, mais...
Bah oui, la bourgeoisie coule.
Voilà, non, mais...
Elle coule dans vos veines, la bourgeoisie.
Ni la bourgeoisie, ni coule, mais enfin, en tout cas, c'est remarquable comme analyse politique. C'est pas du tout... c'est contre un centrisme mou, mon cher Christophe.
Contre Bayrou.
Donc vous ne seriez pas vous-même...
Oh non, là, je me sens pas concerné du tout.
Et c'est intéressant.
Redonnez le titre, Philippe.
Histoire de ta bêtise.
Eh bien voilà, donc à acheter dans toutes les bonnes librairies.
Et c'est
très Bégodeau
a du talent, hein,
bah
c'est
oui,
clair.
Bah oui. Allez, Laura.
Alors moi, je voulais vous parler d'un nouveau magazine pour les jeunes filles qui ont entre 7 et 12 ans.
Ah bon ?
Et jusqu'à présent, vous avez que des magazines très girly, où on leur montre des coiffures, des tenues.
Voilà, tenues roses,
jeunes et jolies.
Et on leur parle, exactement, je ne sais pas si ça existe encore, mais enfin, ça serait l'équivalent aujourd'hui de jeunes et jolies.
C'est un vieux magazine français.
Et là, l'idée, c'est de donner la possibilité à ces jeunes filles d'avoir un magazine d'empowerment, pour leur montrer qu'il y a des femmes qui ont réussi des grandes carrières. Donc, c'est des portraits de femmes avocate, astronaute, donc on vous montre un autre aspect de la femme, pas uniquement les petits cheveux, les petits vêtements tout mignons.
Les ongles, mais voilà, tout ça, bien fait.
Ça parle d'autres sujets un peu plus ambitieux, c'est bien que ça existe. Ça va sortir en juin.
Mais c'est pas trop dur à comprendre pour des gamines de 7 ans, non?
Non, moi j'ai parcouru 2-3 pages qui étaient publiées en ligne et c'est plutôt facile. On apprend même à ces jeunes filles à avoir conscience de leur environnement et de la planète, à faire de nouvelles pailles, à trouver des solutions pour remplacer les pailles en plastique. Bref, c'est pour former les jeunes filles de demain et
pas
c'est
du
important.
Pas du tout la cuisine, Laura. Vous n'y êtes pas dans ces femmes qui réussissent.
Là, il n'y avait pas de recette de cuisine. C'est pas l'objectif de nous cantonner voilà, à la cuisine, au fourneau et aux vêtements. On peut faire beaucoup plus.
Mon cher Philippe Binger, je voulais quand même vous dire quelque chose. Je trouve que vous êtes vraiment à la page parce que Jeune et Jolie n'existe plus depuis 2010.
Mais je me souviens que certaines de mes filles me le demandaient.
Mais moi, attendez, je lisais Jeune et Jolie, ma mère était désespérée, elle a fait ça vieille et moche.
Par contre, c'est vrai que les filles de Philippe Binger sont jeunes et jolies.
Oui, donc c'est vrai, j'ai eu la chance de faire la connaissance.
Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet.
Les vraies voix sur Sud Radio avec Laura Tenoudji, Philippe Binger, Philippe David et Trina McDean. On vous pose cette question dans Les vraies voix. Benalla et plusieurs proches d'Emmanuel Macron renvoyés devant la justice à la demande du Sénat. Le Sénat a-t-il raison? 0826-300-300 et les réseaux sociaux, Trina.
C'est toujours catégorique, hein. C'est oui à 98%. On est monté au 99, redescendu à 98. Je pense qu'on peut atteindre les 100% d'ici la fin de l'émission.
Oui, mais ce ne serait pas plausible alors.
On va finir par faire un score à la Kim Jong-un.
Voilà.
Voilà. Voilà où on en est. Éric Alt, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous, vice-président d'Anticor. Vous luttez contre la corruption et pour l'éthique en politique. Alors, les cas de Benalla, de Vincent Crass, mais aussi de Patrick Strozza, d'Alexis Kohler et du général Lavergne ont été transmis à la justice à la demande du Sénat. Petit rappel quand même, Éric Alt, que leur reproche exactement le Sénat aujourd'hui?
Eh bien, il leur reproche d'avoir menti sous serment, d'avoir s'être parjuré. Alors, ce n'est pas le Sénat, d'ailleurs, qui va les juger. Le Sénat n'est pas un tribunal et pas un tribunal politique.
Non, le Sénat saisit la justice.
C'est le parquet qui va... j'espère, saisir un juge d'instruction. Mmh. Et au terme de l'instruction, s'ils sont renvoyés devant le tribunal correctionnel, il appartiendra à la justice de dire si, oui ou non, ils se sont parjurés, et le cas échéant, d'infliger les peines appropriées.
C'est quoi les peines appropriées, on peut le rappeler ?
Alors, la peine encourue...
Pour parjure, donc.
La peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement, ouais, et 75 000 euros d'amende.
Ah oui, ça rigole pas quand même. Hein.
Ça, ça veut dire que dans l'échelle des valeurs de la société, c'est important.
Ouais.
Et quand on s'exprime devant une assemblée, sous serment, eh bien on ne dit pas n'importe quoi.
Alors ça veut dire donc, pour qu'on comprenne bien, qu'à partir de maintenant, le parquet, vous l'avez dit, saisit la justice. Et donc,
non,
on...
la justice est saisie.
La justice est saisie.
Le parquet va sans doute saisir un juge d'instruction.
C'est ça, voilà, un juge d'instruction. Et donc il y a une enquête qui va se dérouler à nouveau.
Voilà, pour savoir si effectivement les faits qui sont reprochés sont susceptibles de recevoir la qualification de parjure. Mmh. Parce qu'effectivement, M. Koller a dit ce qui aurait été particulièrement grave, c'est qu'on ne sanctionne pas Benalla, et nous l'avons fait rapidement. On sait par ailleurs qu'il n'a pas été sanctionné du tout au mois de mai. Qui c'est d'ailleurs, si les journalistes du Monde n'avaient pas signalé l'affaire, il n'aurait jamais été sanctionné. Donc voilà, là, est-ce que c'est un parjure ou pas ? C'est la justice qui se déterminera. Patrick Strozza disait « Je précise que M. Benalla n'a jamais porté d'armes dans l'exercice de ses fonctions. » On voit même qu'en dehors de l'exercice de ses fonctions, il portait des armes.
Donc, bah oui, il a fait un selfie avec.
Est-ce que là, il y a un parjure ou pas ? La justice se déterminera.
Oui. Dites-moi, le gouvernement, le pouvoir, honnêtement, pensait que cette affaire Benalla allait faire pchit. Et on voit bien que finalement, c'est la bombe à fragmentation. Ça n'arrête plus.
Non, mais pour une fois que les institutions fonctionnent et fonctionnent bien, ce qui est rare sous la Ve République, on s'en étonne. Mais le rôle du Parlement, c'est de contrôler le gouvernement. Mmh. Et s'agissant du chef de l'État, certes, nous sommes en monarchie républicaine, mais l'immunité ne concerne pas l'entourage du président de la République. Mmh. Donc, le Parlement fait normalement son travail. En tout cas, le Sénat fait normalement son travail. Car je rappelle quand même que l'enquête devant l'Assemblée nationale a été sabordée du fait de l'attitude de la présidente de la Commission des lois. Anticor, nous l'avions même, attribué une casserole à ce sujet.
Mmh, mmh. C'est vrai qu'au Parlement, enfin à l'Assemblée nationale, ça a tourné court tout ça. Faut le rappeler,
on ne s'attend pas des parlementaires à ce qu'ils soient au garde à vous. On ne s'attend pas des parlementaires qu'ils soient des godillots. C'est une dérive des institutions. Les parlementaires doivent contrôler le gouvernement. L'équilibre, c'est quelque chose d'important en démocratie. Et là, pour une fois...
Donc la vraie opposition aujourd'hui, c'est le Sénat.
Ben, aujourd'hui, en tout cas, dans cette affaire.
Dans cette affaire, oui.
Mais c'est vrai que beaucoup de lois, moi je voyais avec consternation des lois très importantes, notamment sur la privatisation d'ADP, votées pendant la nuit à l'Assemblée nationale. En réalité, le résultat était acquis d'avance. Il n'y avait pas de vrai débat.
Mais il n'y avait pas de vrai débat, il n'y avait presque pas de députés lors du vote non plus. Hein.
45 sur 577.
C'est hallucinant.
Et ça, c'est pas normal. On ne vote pas, on ne mandate pas des parlementaires pour faire ça. Donc là, pour une fois, le Sénat fait son travail, bien, c'est très bien.
Éric, bien évidemment, j'ai entendu parler de vous, mais je ne vous avais jamais croisé.
Mais c'est fait. Je
suis d'autant plus à l'aise pour vous poser cette question que je crois que le Sénat a très bien fait de renvoyer les cinq. Hein. Mais juste une question. La République En Marche parle de haine politique, de partialité absolue, et de l'autre côté, eh bien, on dit c'est la justice, comme vous venez de le dire, qui fonctionne, une commission sénatoriale impeccable. Votre sentiment profond là-dessus, est-ce qu'on ne pourrait pas suspecter cette commission et le président Bas d'être très heureux de cette opportunité de mettre des poux dans un pouvoir jupitérien ?
Alors le président Bas, il faut rappeler que c'est le président de la commission du Sénat sur cette affaire. Voilà.
Qu'un chat soit blanc ou noir, qu'importe l'importance à qui qu'il attrape les souris. Mmh. Et donc, qu'il y ait des arrière-pensées, sans doute, mais si ça permet, si ça stimule le travail de la commission, ben, tant mieux. Bien sûr, il y a des arrière-pensées politiques, mais de facto, les institutions fonctionnent. Mmh. Et c'est ça qui m'importe.
Vous ne pensez pas qu'il y avait un risque de forcer le trait sur le plan juridique pour renvoyer ces trois personnes proche du président.
Les cinq.
De toute façon,
les cinq. Mais les deux premières ne pouvaient aucun problème.
La qualification juridique des faits, c'est la justice qui la décidera. Donc on n'a pas forcé le trait sur le plan juridique. J'entends des sénateurs qui disent c'est un renvoi qui n'est fondé ni en fait ni en droit. En droit, non, ce n'est pas le sujet. Il est fondé en fait. En revanche, quand on lit les déclarations, celles que j'ai rappelées à l'instant, on peut effectivement s'interroger sur le point de savoir si il y avait une sincérité des gens qui s'exprimaient. Et s'il n'y a pas, en revanche, parjure. Et c'est ça le sujet.
On vous pose cette question dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Benalla et plusieurs proches d'Emmanuel Macron renvoyés devant la justice à la demande du Sénat. Le Sénat a-t-il raison d'agir de la sorte? 0826 300 300 et bien sûr les réseaux sociaux, ma chère Trina.
Et c'est toujours oui à 98% et énormément de réactions. On sent vraiment la colère de nos auditeurs sur l'affaire Benalla. On a Jaspot qui nous dit oui, le Sénat est aujourd'hui la seule institution qui contrôle vraiment l'exécutif au nom des Français.
Allez, on se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio pour poursuivre le débat. A tout de suite les amis.
Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet.
Les Vraies Voix sur Sud Radio, les amis, c'est reparti avec cette question. Benalla et plusieurs proches d'Emmanuel Macron renvoyés devant la justice à la demande du Sénat. Le Sénat va-t-il trop loin? Le Sénat a-t-il raison de saisir le parquet et de défier Macron? 0826 300 300, on va vous écouter dans quelques instants. Vous êtes nombreux au standard et sur les réseaux sociaux, ma chère Trina.
Ah, c'est toujours oui pour les auditeurs de Sud Radio. On est monté à 99% encore pendant la pub et là, on est revenu à 98%.
Ça s'en va et ça revient.
Voilà.
C'est fait de tout petit rien.
Il est venu le temps du tribunal. Vous ne serez condamnés qu'à des faits de violence légère et une petite prune de 35 balles.
Non, mais il y en a qui ont de l'imagination sur Internet. Hein. Des chanteurs comme ça, lambda.
Ah oui.
Ouais.
Mais c'est des bons paroliers. Hein.
Ah oui. Non, mais c'est marrant, c'est sympathique. C'est des humoristes, là, d'ailleurs. Hein. Je crois que les décaféinés, comme le Nescafé.
Ah oh, bah c'est bien.
Le Nescafé, je vais y arriver.
Oui.
Oui. Faut pas en prendre trop. Hein.
Ah oui, oh bah si, le soir, on peut en prendre autant qu'on veut du décal. Bah oui, après, vous pouvez dormir, il n'y a pas de problème.
Merci, docteur. Alors, dites-moi, Eric Halt est toujours avec nous, vice-président d'Anticor. Vous luttez contre la corruption et pour l'éthique en politique. Je le disais, vous êtes nombreux au standard à nous appeler. Hein, 0826 300 300. Il y a Laurent de Montpellier qui est avec nous. Bonsoir, mon cher Laurent.
Bonsoir, je vous appelle avec le beau temps.
Mais écoutez, le beau temps est partout. On a l'impression que Montpellier est partout. Voilà la vérité.
Dans le sud surtout, à 43 degrés nord de latitude environ.
Voilà, absolument. Il a fait quelle température cet après-midi à Montpellier?
18, entre 18 et 20 selon les sites où nous étions. Quoi, voilà.
Bon ben voilà, entre 18 et 20, mon cher Philippe Binger, vous qui parliez de torse tout à l'heure, vous pourriez aller bronzer à Montpellier.
Ah moi je ne me mets plus au soleil depuis des années.
Ah oui, ça vous fait mal le soleil?
Ah mais j'ai pris trop de soleil sur le crâne quand j'étais jeune et depuis je dois échapper au soleil.
Ah c'est ça, non mais je n'ai un problème technique à l'intérieur.
Je n'ai que le soleil symbolique de vos intelligences. Alors évidemment, je reste à l'ombre.
Hein. Mais on parlait pas de la tête, on parlait du torse.
Non mais le torse, j'ai pas le ridicule de montrer mon torse comme vous avez osé le faire
pourtant,
il y a trois jours.
Mais n'importe quoi.
Honnêtement, Laurent, je verrais bien Binger avec la chemise bien ouverte et une petite chaîne en or. Là.
Ah ouais. Ça lui irait comme un bon genre. Jodassin.
Oui,
mais je l'aime beaucoup, malgré la médaille et malgré la chaîne en or.
Bon, Laurent, est-ce que le Sénat a bien fait de demander à la justice d'agir sur Benalla et ses copains?
Eh bien, disons que si c'est sa prérogative, vraiment, j'ai l'impression que oui, le Sénat a raison, parce que Monsieur Benalla s'est un peu grisé dans ses fonctions. Mmh. Hein, on l'avait même vu faire un selfie avec une arme à feu.
Une arme, hein, bien sûr. Oui.
Voilà, donc s'il n'a pas d'autorisation de détention d'arme, c'est se vanter. Et même s'il en avait une, c'est se vanter pour rien du tout, ça, parce que l'arme à feu, c'est un morceau de métal. Hein. Bon,
oui, enfin, voilà. Ça peut faire mal, quoi, suivant comment on l'utilise.
Comme une boule de bowling sur la tête. Hein.
Voilà, bon, voilà. Bon, je n'ai jamais essayé ça, le bowling sur la tête, mais on peut essayer.
Je peux poser des questions, parfois.
Mais vous avez dû essayer parce que tous vos cheveux sont tombés depuis, donc, Philippe David.
Strike.
D'accord. Non, mais c'est vrai, vous pensez que le Sénat a bien fait de jouer son rôle d'opposition dans l'histoire et effectivement de dire on nous a menti, maintenant, il faut que les choses aillent jusqu'au bout?
Tout à fait, c'est politique. Ça permettra de calmer les ardeurs de M. Benalla et de ses colistiers, là, qui se sont un peu grisés hein, dans la fonction, hein, se prenant pour au-delà, au-dessus des lois, un petit peu quand même. Hein.
Ouais, voilà.
Bon, ça les calmera. Ils sont, pour M. Benalla, qui est jeune, ça ne lui fera pas de mal. Mais je ne pense pas qu'il y ait un grand risque pour lui, quand même, finalement. Mais je pense quand même que ceci lui permettra de revenir sur Terre et de faire son travail normalement, parce qu'il le reprendra normalement un jour. Hein,
mais Laurent, vous qui êtes comme moi, un électeur lambda, un Français de base, comme on dit, voilà, ben on est comme ça.
Pas vous.
Ben si, on est comme ça. Je suis désolé, pardon. Hein, je vous rappelle mes racines agricoles, ça vous dérange pas, oui, voilà, par exemple. Non mais, question très simple, comment vous, depuis le début, vous vivez cette affaire Benalla?
Oh ben comme un jeune loup qui s'est un peu grisé, quoi. Il est pas à plaindre, mais presque, on se dit intellectuellement.
Mais ce que vous vous dites, c'est la bande à Macron, on nous avait promis le nouveau monde, et puis finalement c'est pire que l'ancien, j'en sais rien.
Oh non, mais le nouveau monde n'existe pas, ça c'est une vue de l'esprit. Hein. Le monde continue avec les gens, nous ressemblons tous quand même. Hein. Je crois que le pouvoir peut griser, et c'est ce qui se passe et pour Jupiter... Et pour M. Benalla, qui doit être un de ses satellites, simplement.
Merci beaucoup, mon cher Laurent, d'avoir participé aux Vraies Voix ce soir sur Sud Radio. Merci à vous. Alors, question que je voulais poser à Eric Halt. Laurent le disait, on est quand même sur quelque chose qui est très politique, cette décision du Sénat. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé là cet après-midi, qui effectivement est très politique. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, parce que quand même, le Premier ministre a refusé d'aller aux questions au gouvernement, au Sénat, pour protester contre la décision du Sénat.
J'ignorais. Ça ne l'élève pas dans mon estime, parce qu'en réalité, cette décision du Sénat...
C'est quand même puéril.
Elle met fin à une culture d'impunité. On ignorait ce qu'est la responsabilité. Je rappelle qu'Emmanuel Macron avait dit publiquement qu'il vienne me chercher, je suis responsable de ça. En réalité, on sait bien que le président de la République est inviolable.
Oui. Mais donc, là, le Sénat est allé chercher les plus proches, quand même.
Et donc, voilà, donc là, enfin, la responsabilité retrouve un sens dans la Ve République.
Je pense que ça montre que la France est peut-être en train de devenir une grande démocratie. Rappelons-nous, il y a quelques années, pour parjure, je vais faire plaisir à Philippe Bilger pour une simple gracieuseté. On a failli éjecter un président des États-Unis, oui, qui s'appelait Bill Clinton, dans l'affaire Monica Lewinsky. Quand on voit qu'en France sont passées à l'as des affaires aussi graves, pour les politiques, hein, que le sang contaminé, que la mairie de Paris, alors là, les scandales étaient nombreux, que Urba, parce qu'il y a eu des lois d'amnistie, et si on fait la liste, c'est absolument, mais on y passe 3 heures.
Il n'y avait pas que des coupables, mon cher Philippe.
Mais il y en avait quand même. Oui, il y en avait quand même. Et donc, je me dis, peut-être que la France est en train de quitter le statut de république bananière, qu'elle est quand même depuis pas mal d'années, pour devenir une grande démocratie à l'américaine. Et ça, c'est quand même plutôt positif, à mon avis.
Ouais. Laura, que disent, évidemment, ceux qui se prononcent sur les réseaux sociaux sur cette affaire? Parce que je crois que ça provoque quand même beaucoup, beaucoup de débats sur les réseaux sociaux depuis cet après-midi.
Oui, énormément. Mais alors après, de réaction, de débat, tout le monde est plutôt d'accord, ça rejoint les chiffres dont nous parlait Trina.
Le vote,
et le Sénat est en trend topic, c'est-à-dire que c'est vraiment en tête des sujets qui sont abordés sur Twitter. Et globalement, on est plutôt fiers de la décision du Sénat, on le félicite.
Ouais.
Et vous parliez du Premier ministre, mais il y a aussi Richard Ferrand qui devait partir demain avec Gérard Larcher à Lille et qui a annulé son voyage.
Voilà.
Donc les gens réagissent.
Mais ça prouve quand même une chose, c'est que c'est un véritable bras de fer qui s'engage entre le Sénat et le gouvernement.
Ah oui,
c'est ça que ça veut dire.
Mais moi, ça s'appelle un contre-pouvoir.
Je trouve que c'est scandaleux, vous me l'apprenez, Christophe, que le Premier ministre ait refusé de se rendre pour protéger.
Que ce soit Ferrand ou que ce soit Philippe.
Non, mais c'est pareil.
Moi, je suis désolé, mais
c'est un vrai. On a l'impression de voir des querelles de cours de récréation.
Mais ça abaisse la politique.
C'est plus que puéril, c'est très choquant.
Ça abaisse la politique.
En revanche,
c'est le nouveau monde.
Jamais le Sénat n'a été aussi populaire sur les réseaux sociaux.
Ah oui.
Alors qu'on voulait à un moment le supprimer, qu'on le dénonçait, là, tout le monde l'aime d'un seul coup.
Voilà. Le Sénat est sauvé.
Ah oui. Ce qui peut évidemment choquer, c'est l'irruption d'un état de droit tout à fait novateur aujourd'hui, alors que des précédents quinquennats auraient pu évidemment faire l'objet aussi.
Alors, il ne faut peut-être pas crier victoire trop vite, hein, je ne sais pas, Eric Halt, ce que vous en pensez, mais il faut que la justice aille jusqu'au bout.
Absolument.
Vous allez, vous qui êtes avec votre association particulièrement pointue, Vous allez suivre ça de près, vous allez...
Oui, on a d'ailleurs écrit au président du Sénat pour lui dire que la seule décision digne, c'était de saisir la justice. Mais le problème de la justice, c'est...
Non, parce qu'il faut aller jusqu'au bout, puis cette justice, elle peut être un petit peu vendue peut-être au pouvoir.
Non, je ne crains pas cela. En revanche, qu'elle soit saturée...
Non, ça n'a jamais été le cas. N'arrête pas de nous dire que c'est bien différencié tout ça, mais...
Non, non, ça a été le cas, mais ça ne l'est plus.
Mais qu'elle soit en revanche saturée, comme l'a dit la Cour des comptes la semaine dernière, ça c'est vrai. Et donc, il y a beaucoup de grandes affaires qui progressent très très lentement. Où la vérité tarde à se manifester parce que la justice est saturée, les services de police ne sont pas à la hauteur, en nombre en tout cas. Et ça, c'est un vrai sujet. Je me demande d'ailleurs parfois, même si...
Mais ça veut dire que là, cette affaire qui concerne Benalla et quatre autres collaborateurs du président, ça peut durer quand même très longtemps. Alors, là.
C'est une affaire relativement simple à instruire. Donc ça devrait sortir dans des délais raisonnables.
C'est quoi des délais raisonnables pour cette affaire? Un an?
Une année, voilà. Oui. Mais c'est vrai que Benalla, c'est un foisonnement de dysfonctionnements. Et donc,
Il y aura plusieurs affaires dans l'affaire, oui.
Et donc, il y a bien une dizaine d'affaires le concernant, ce en quoi ça révèle un dysfonctionnement majeur de l'État, parce que c'est pas normal qu'un type à l'Élysée soit allé aussi loin. Voilà, et donc ça mettra peut-être un peu plus de temps pour être instruit.
Éric Halt d'Anticor, merci beaucoup d'être venu nous voir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, bien sûr, pour éclairer notre lanterne, Les Vraies Voix, où l'on se posait cette question. Benalla et plusieurs proches d'Emmanuel Macron renvoyés devant la justice à la demande du Sénat. Le Sénat va-t-il trop loin? Le Sénat a-t-il raison de saisir le parquet? Allez, résultat définitif sur les réseaux sociaux. Trina?
Eh bien, c'est oui pour les auditeurs de Sud Radio à 98%. Et on a Jacques Kelslis qui nous dit oui, le Sénat a raison, surtout après la farce de la commission à l'Assemblée nationale.
Dont on parlait tout à
l'heure.
Exactement. Évidemment. Merci beaucoup. Chers amis des Vraies Voix, on va rire, on va se détendre avec notre imitateur vedette Dany Moreau et Cécile de Ménibus. Aujourd'hui, nouveau tour de piste, si je puis dire, avec Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui adore le boum, 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 boum.
Vous avez demandé la police, ne quittez pas.
C'est moi, Christophe Castagnette, le bricolo de la place Beauvau, qui leur a demandé de baisser le rideau car ces magasins de bricolage étaient la plaque tournante de trafic illicite.
Comment ça?
C'est dans ces établissements que les Black Box venaient s'approvisionner en armes de guérilla urbaine. Quelques masses, marteaux pour fracasser les vitrines, mais aussi de la super glue pour coller au mur les CRS. Bref, ils pouvaient y trouver le kit complet pour démonter un Fouquet. Alors, j'ai dit stop. J'ai même interdit le matériel de jardinage, car en France, je vais être le seul à pouvoir me prendre un râteau en boîte.
Et qu'est-ce que vous allez mettre en place, M. Castaner?
À la place des Castorama, je vais ouvrir un nouveau concept store, le Castanerama. Le Castanerama, c'est un magasin entièrement dédié au divertissement et à la fête, avec tout pour se détendre. Tout pour se détendre après une manif un peu agitée des gilets jaunes. Chez Castanerama, vous trouverez des boules à facettes qui brillent dans la nuit à 9,90€. Des casques de CRS dédicacés par Daft Punk. Des platines de DJ pour faire tourner la tête des filles à 69,69€.
Beau chiffre.
Mais aussi des éthylotests griffés Castaner pour enchaîner les shots de vodka jusqu'au bout de la nuit. Alors n'oubliez pas, chez Castanerama, c'est Castoche pour se retourner la caboche, car chez Casta, c'est tout ce qu'il y a, fiesta et ratafia.
Et voilà.
Ah, il est bon, Dany.
Il est très bon dans Castaner.
Ah oui,
il est formidable.
Ah, oui.
Et dans Mbappé.
Eh bien, il sera là. Il sera là demain, évidemment, dans le Grand Matin Sud Radio, avec Cécile de Ménibus et Patrick Roger. Bien sûr. Allez, on se retrouve dans quelques secondes dans Les Vraies Voix sur Sud Radio pour le plaisir, oui, le plaisir d'être ensemble. À tout de suite.
Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet.
Les Vraies Voix sur Sud Radio, chers amis, et comme chaque jour, évidemment, c'est le moment, c'est l'instant du mot du jour.
Ah. Sud Radio, Les Vraies Voix, on l'appelle Monsieur Je Sais Tout, surtout Philippe David.
On aurait pu faire le mot pâte, on aurait pu faire le mot paille, on aurait pu faire le mot pipi, on aurait pu faire le mot debout.
Oui.
Mais non.
Non.
Alors on vous explique.
Merci pour la dédicace. J'apprécie.
Ben oui, mais c'est comme ça. Hein. Il y en a qui jouent du piano debout et d'autres qui font pipi debout. Absolument. On l'a appris il n'y a pas longtemps dans cette émission. On vous en dira plus la semaine prochaine. On ne va pas tout vous dire maintenant.
Oui.
Allez, c'est parti pour le mot militaire aujourd'hui.
Ah, militaire.
Oui, le mot du jour est le mot militaire, mon cher Christophe.
Oula. On descend les Champs-Élysées le 14 juillet.
La marche consulaire, Maringo. Le mot du jour est le mot militaire, puisque la décision de mettre des militaires de sentinelles dans les rues pour l'acte 19 des Gilets jaunes fait beaucoup réagir. Militaire est à la fois un nom et un adjectif. Un militaire est une personne qui fait partie des forces armées pour ce qui est du nom. Pour ce qui est de l'adjectif, militaire est tout ce qui est relatif à l'armée, à son organisation, qui lui est propre ou qui a les caractéristiques de l'armée, comme la rigueur ou la discipline. Militaire vient du latin militaris, qui concerne la guerre, qui vient de 1000 soldats, puisqu'à l'époque, les unités de soldats appelées cohortes était composé de 1000 hommes et était commandé par un tribun, le Tribunus Cohortis.
La Tribunus France, Cohortis, c'est
absolument,
ça.
Absolument, le tribun cohorte, le centurion commandait 100 hommes, le décurion commandait 10 hommes et le tribun en commandait 1000.
Et le troufion ?
Il se commandait tout seul.
D'accord.
Et encore.
Non, je pensais à vous, je pensais.
La France a toujours eu une tradition militaire puisqu'elle pratiqua la conscription, appelée trivialement service militaire, jusqu'au début du XXIe siècle. Service militaire dont Pierre Daninos disait que c'était une période pendant laquelle on mange mal, mais qui nourrit la conversation pour la vie. On garde tous un souvenir ému de nos parcours du combattant, du parcours d'audace ou piste du risque.
Mais moi, je ne l'ai pas fait, le parcours du combattant.
Jamais ?
Mais non,
vous êtes un planqué ?
Bah, je ne sais pas, j'ai jamais fait le parcours du combattant. J'ai fait deux semaines de classe, comme on appelait. Voilà.
Et le parcours d'audace, vous n'avez pas fait non plus,
non
plus alors.
Ah, non,
ça,
non.
C'était marrant.
J'ai fait
ça.
Des pompes à minuit, ça m'a vraiment gonflé. Ça.
Moi aussi, j'ai fait beaucoup de pompes. Alors, de la piste du risque, pour
vous
ceux qui ont été
brevetés.
Ah oui, vous allez voir comment. Des nettoyages de FAMAS jusqu'à pas d'heure ou des pompes pendant lesquelles on répétait c'est la vie de château, pourvu que ça dure. C'est la vie de château, pourvu que ça dure.
Faites-le là, faites les pompes.
Non, là, je peux pas avec le micro, il est trop haut.
Ah merde.
Il y a les marches militaires qui font défiler les militaires au pas sur les Champs-Élysées tous les 14 juillet, ou presque depuis 1880. On sera à l'acte environ 130 le 14 juillet prochain, même si le 14 juillet tombant un dimanche, on sera au lendemain de l'acte 35 des Gilets jaunes, ce qui pose une question incontournable. Les chars Leclerc auront-ils des chenilles assez performantes pour descendre les Champs-Élysées le lendemain d'une manif des Gilets jaunes ? Oui, pour nos ventes d'armes à l'exportation, mieux vaut l'espérer.
Ça sera peut-être terminé d'ici là.
Oh, c'est peut-être mal parti. Quand
on
ne
sait pas.
Oui, j'ai compté, ce sera l'acte 35 exactement, le 14 juillet. Pour nos ventes d'armes à l'exportation, il y a les dictatures militaires dont Clémenceau disait qu'elles sont comme le supplice du pal. Elle commence bien, mais elle se termine mal. Clémenceau, qui n'était pas tendre avec les militaires, puisqu'il déclara également « Il suffit d'ajouter « militaire » à un mot pour lui faire perdre sa signification. Ainsi, la justice militaire n'est pas la justice, la musique militaire n'est pas de la musique, ou de dire encore « La guerre, c'est une chose trop grave pour la confier à des militaires. » À défaut de guerre face aux uniformes Feldgrau, nos militaires vont donc tenter de maintenir l'ordre face aux gilets jaunes samedi prochain. Face à eux, pas de Kalachnikov mais des Kakatov, armes beaucoup moins létales mais beaucoup plus malodorantes. Samedi prochain, plus personne ne pourra dire que notre armée n'est pas dans la merde.
Très bon.
Bravo.
Alors les Kakatov, c'est quoi exactement?
Les gens emballent leurs excréments dans leurs emballages pour les jeter sur les forces de l'ordre.
Ah ben oui.
Et ils se sont inspirés de cocktails Molotov. Parce que le cocktail Molotov, c'était une bouteille d'essence. Enfin, je ne vais pas donner la recette.
Oui.
Et là, c'est le Kakatov qui remplace le cocktail Molotov.
Eh ben, ça pue, hein, tout ça, on peut le dire. Hein. Ouais.
Lamentable.
Allez, comme chaque jour, évidemment, dans
Repos.
Les vraies voies, l'actualité près de chez nous, dans nos régions. C'est parti, c'est tout de suite.
Ne touchez pas notre tradition.
Paris, au Toulouse.
J'ai voulu voir Vesoul et on avait Vesoul.
Je danse le mire.
Sud Radio, le buzz des régions.
Les régions avec Trina qui est avec nous aujourd'hui. On commence par une pilleuse de tombes prise la main dans le sac, si je puis dire.
Oui, c'est l'histoire de Brigitte Pascal, une habitante de Perpignan qui se rend régulièrement sur la tombe de son neveu.
Mm-hmm.
Et chaque fois, les fleurs qu'elle avait apportées la veille disparaissaient.
Ah bon ?
Et voilà. Et puisque ses plaintes au commissariat ne donnaient rien, elle a décidé de tendre un piège aux voleurs. Mmh. Elle s'est cachée derrière les grilles du caveau familial avec une caméra. Et figurez-vous qu'elle a surpris une dame qui faisait son marché sur la tombe, comme s'il était un peu chez un fleuriste.
D'accord.
Voilà. Donc, grâce à la vidéo, elle a été interpellée. C'est une dame de 67 ans qui volait des fleurs.
Donc, elle était avec son petit caméscope, là.
Voilà. Elle s'est cachée derrière les grilles d'un caveau et elle a vu que cette dame était en train de se servir sur les tombes. Donc, c'était une dame de 67 ans qui volait des fleurs dans le cimetière pour fleurir son jardin. Mmh. Et elle comparaîtra le 19 septembre prochain devant le tribunal correctionnel de Perpignan.
C'était Madame Sangène, celle qui volait les fleurs, oui, là, voilà. On peut le dire, je crois.
C'est ça.
Hein, bon.
Il faut le faire quand même.
Ah non, ça, c'est particulièrement abject.
Non, mais c'est vrai que ça arrive tout le temps.
Mais ça arrive souvent.
Je trouve franchement que
moi,
c'est
sur le caveau familial, c'est arrivé déjà. Oui.
Moi aussi, bien sûr. Mon grand-père.
Moi, je trouve franchement que c'est bien pire qu'un vol à l'étalage, parce que là, on vole quelqu'un qui est mort, qui ne peut pas se défendre.
Bien sûr.
C'est comme ça.
C'est pour ça que les Juifs mettent des petits cailloux à la place. Oui, ça évite les vols.
Ah ben, je vais peut-être mettre des petits cailloux, moi, finalement, à la place des fleurs. Hein ? Allez, cambriolage raté ce lundi matin au Centre communal d'action sociale de Fécamp, en Seine-Maritime.
Et oui, grâce à...
Oula, la police est là. Castaner est dans le coin. Au secours.
Grâce à des voleurs étourdis, les policiers n'ont pas eu à pousser bien loin leurs investigations pour les retrouver. En fait, deux malfaiteurs ont volé des percolateurs, vous savez, les machines à café professionnelles. Mais il s'avère que ces machines avaient une fuite. Donc les gendarmes n'ont eu qu'à suivre les gouttes de café au sol. Et ça mais c'est très drôle. Et ça les a menés directement chez les voleurs. Un homme de 28 ans et une femme de 34 ans qui vivaient à quelques dizaines de mètres. En plus, ils ont volé des aliments et une caisse enregistreuse vide. Ils ont été placés en garde à vue puis libérés en attendant une convocation judiciaire. Ils sont pas très doués.
C'était les pieds nickelés.
Oui. Ils mériteraient d'être relaxés pour bêtise.
Oui. Bah, c'était un peu fort de café quand même.
Mais vous êtes très 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 en forme.
Ouais. Il est très café en ce moment.
En forme de quoi?
Ça c'est un autre sujet. Voilà.
Allez, on termine avec une course assez spéciale qui aura bientôt lieu du côté de Mulhouse.
Oui, alors est-ce que quelqu'un ici collectionne les canards en plastique?
Oui, moi.
Alors voilà, tant mieux.
Moi aussi.
C'est vrai.
Mais pas les mêmes.
En tout cas, ma fille les collectionne.
Attendez. Ah non, vous avez dit que c'était vous.
Enfin, ensemble, on fait une collection commune.
Mais ce sont des canards vivants.
Non, mais
essayez
de se rattraper.
Ben, pour ma fille, pour l'instant, pas encore.
Elle a pas de sextoy, d'accord.
Ah ouais.
Bon. Elle est trop jeune.
Moi non plus.
Parce que figurez-vous que vous pouvez en adopter un pour la Duck Race de Mulhouse, qui aura lieu, donc course de canards, qui aura lieu le 28 avril. 12 000 canards en plastique vont s'affronter lors d'une course caritative pour venir en aide au service de néonatologie de l'hôpital de Colmar et à un projet de colocation à destination des personnes âgées touchées par la maladie d'Alzheimer. Les organisateurs de l'événement viennent d'annoncer que plus de 6 000 canards ont déjà été adoptés. Je trouve que c'est un bon projet.
Ça rappelle des souvenirs.
Mais Philippe David va le faire.
Quoi ?
Tu vas participer.
À Mulhouse ?
Oui.
Pourquoi pas ?
Oui, mon canard, vas-y.
On ira ensemble.
Vas-y, mon canard.
Les vrais voix à Mulhouse avec les canards, ça
serait drôle.
Ça serait sympa. Je vois bien Philippe Binger à la pêche aux canards.
Je connais un peu.
Vous êtes contre, vous n'aimez pas Mulhouse.
Ah non, mais Colmar à côté, c'est très joli.
C'est une merveille.
Ah, mais le centre de Mulhouse, c'est pas moche.
Mais
le centre
c'est
de Mulhouse.
Mulhouse.
Après, c'est très industriel.
Mais il est petit, le centre.
C'est un nouveau débat des vraies voix. Mulhouse, c'est moche, c'est pas
vous
moche.
Savez, j'aimais bien Mulhouse au temps de Bockel.
Oui. Ah oui, pourquoi ?
Parce qu'il faisait ce qu'il
pouvait. On savait plus trop s'il était socialiste ou pas, Bockel.
C'était la gauche moderne.
Tout ça nous éloigne.
Il a eu du mérite.
Réalité des vraies voix. Ça part dans tous les sens, c'est le délire absolu.
Mais
tout le monde a pris de la poudre blanche. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des éléphants bleus qui passent devant nous.
Mais des canards, surtout.
On a mis le canard dans le Bockel.
Oh ! Je suis pas sûr que tout le monde nous suive, hein, mais bon, c'est pas grave.
Mais on n'a rien pris. Hein.
Mon cher Philippe David, 19h-20h, comme chaque jeudi, émission spéciale.
Il y a du peuple, seul contre tous. Oui, ce soir, les débatteurs, ça va être punchy, ça va être musclé, face à face, Étienne Chouard, professeur de droit et, d'économie.
Ah bon, d'accord, le pauvre.
À Marseille, promoteur et défenseur du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, et face à lui, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Ah oui, elle parle vrai.
Ah, elle parle vrai. Mmh.
L'armée dans la rue, est-ce la fin de la démocratie ? Premier débat, sujet d'actu, et le deuxième débat, de 19h30 à 20h, les journalistes font-ils bien leur travail ? Alors évidemment, on va être en Facebook Live.
Sud Radio, évidemment que les journalistes font bien leur boulot, évidemment.
Absolument.
Évidemment.
Mais Sud Radio, c'est à part.
Oui, voilà, c'est à part.
Ils sortent de leur Bockel, c'est ce que je répète. Ils vont voir ce qui se passe dans la vraie vie. Et donc, il va y avoir un débat vraiment musclé. Je sens que ça va...
Comme arbitre, vous
prenez
des risques.
Vous allez devoir être un très bon arbitre. Oui.
On va essayer.
Ah ouais. Bon, merci à tous.
Vous avez un sifflet?
Je peux vous le prêter si vous voulez.
Super.
Il y a toujours moyen de souffler dans le sifflet.
Oui. Ouais.
Allez, merci beaucoup à tous. Laura dit mais je suis tombée chez des fous. Voilà, tout simplement.
Non, j'ai l'impression d'être à la maison.
À la maison? Ah oui, c'est comme ça.
Ah bah il va être content de le savoir.
C'est comme ça chez vous?
De temps en temps, oui.
Ah bah c'est sympa.
Oui. Je vous invite quand vous voulez.
La semaine prochaine. On vient à Nice la semaine prochaine. Allez, c'est parti. On vous embrasse, à tout de suite avec les vraies voix, tout de suite.